Morning Edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir avec Pierre Aski, nous allons essayer de mettre un peu le globe dans des colonnes de plus et des colonnes de moins. Les pays qui nous ont étonnés, bluffés, désespérés au cours de cette saison passée. Ceux qui émergent du Covid, ceux qui y sont encore plongés, vous verrez qu'il y a largement de quoi faire. Le bruit du monde est à Cuba, tiens, un pays que l'on abordera aussi forcément dans un instant. Cuba qui est sorti dans la rue une fois dimanche, mais peut-être que quelque chose a changé. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Mariam El Kurdi a trouvé des Indiens traités comme des esclaves par des producteurs de pastèques en Italie, des retrouvailles très émouvantes en Chine et une piscine aux Émirats Arabes Unis. Je ne vous dis que ça, 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin avec cette taxe carbone aux frontières, en même temps que le Big Bang, que serait ce fameux climat dont on parlait hier, 18h55, le monde d'après de Christian Cheneau, ce soir, 5 ans après le putsch en Turquie, qui a définitivement changé la présidence Erdogan. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pierre Aski.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes l'homme de la chronique géopolitique le matin à 8h17 sur France Inter. Merci d'accepter de jouer cet exercice de fin de saison, on va le dire comme ça ensemble. Oui, un petit peu compliqué. Ouais. Je le disais, je voudrais qu'on fasse deux colonnes, en fait, celle des pays qui nous ont étonnés dans le bon sens du terme. Donc on aura envie de suivre, voir un peu ce que ça donne. Celle de ceux qui sont, on va dire, sur une pente dangereuse. On ne parle pas seulement d'ailleurs du Covid. C'est quoi, tiens, Pierre, votre pays à vous, le pays que vous voulez voir grandir, que vous avez vu bouger cette année, ce serait lequel ?
Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, la colonne plus est quand même plus petite que la colonne moins, il faut bien le dire, hein, c'est incontestable.
Ça, j'ai trois feuilles devant moi, il y a beaucoup de moins là-dedans.
Voilà, et en fait, en y réfléchissant, le pays qui, toutes catégories confondues, arrive en tête, c'est le Chili. Moi, je trouve que le Chili est le pays qui nous a le plus étonnés. Vous vous souvenez qu'en 2019, il y avait eu des mouvements citoyens à travers le monde pour des causes diverses, mais en même temps, il y avait des mouvements de masse du Chili au Liban, en passant par l'Algérie, le Soudan, etc. De tous ces mouvements, le Chili est celui qui a tenu ses promesses. C'est-à-dire qu'il y a eu, au mois de mai, des élections pour une assemblée constituante qui est sortie avec un résultat qui mettait à l'honneur la société civile, la parité homme-femme,
Les Amérindiens.
Les Amérindiens, etc. Il y a eu la semaine dernière seulement l'élection de la présidente de cette assemblée, et c'est une indienne mapuche qui a été élue. Et cette assemblée constituante, donc constituée de citoyens fraîchement élus, a un an pour rédiger la constitution qui va définitivement tourner la page de l'ère Pinochet. Et ça, c'est quand même assez remarquable. C'est-à-dire que, avec tous les écueils qui restent à surmonter, le Chili a continué son chemin. Et aujourd'hui, c'est un véritable modèle, et pas seulement pour le Chili, parce que je pense que la méthode chilienne, elle peut aussi donner des idées et servir d'exemple. Les contextes sont différents dans chaque pays, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose dans ce pays.
Il y a déjà effectivement beaucoup de dirigeants ou d'opposition dans tous les pays du monde, y compris dans le nôtre d'ailleurs, qui regardent comment les choses se passent. Ce qui est intéressant, Pierre, avec le Chili, c'est que c'est peut-être le seul aussi dans son continent, en Amérique du Sud, encore pire, en Amérique centrale, à sortir de ce lot-là. On a l'impression qu'il est plutôt cerné par des pays qui sont en train de faire le chemin inverse, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, on a Bolsonaro en fin de parcours, puisqu'il va quand même avoir des élections, et qui a un bilan absolument désastreux, que ce soit sur le Covid, sur la déforestation de l'Amazonie. C'est assez accablant. Voilà un homme qui a tenu ses promesses, mais les mauvaises. En Amérique centrale,
on a le Nicaragua,
voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment aujourd'hui, en plus avec un personnage qui est un personnage historique, qui revient et qui tourne mal. Enfin, bref, ce pays est aujourd'hui un petit peu la caricature de la dictature d'Amérique centrale. Et ça, c'est vraiment triste. Si on reste dans ce continent, mais en passant par la zone Caraïbe, on a Haïti qui vient de vivre des heures tragiques et qui continue à être dans cette incertitude après l'assassinat de son président. Assassinat encore plein de mystères, même si il commence à y avoir des pistes.
Qui était un peu dans le premier dans la colonne des moins, effectivement, à Haïti. Alors, oui, c'est vrai qu'on On l'a beaucoup en tête, parce que c'est très récent, dans ce continent,
effectivement, le Chili est un peu le phare, parce que tous les autres sont soit en train de s'enfoncer dans la violence, comme ce qu'on a dit, et puis d'autres dans la crise économique, comme l'Argentine, qui est très profondément aujourd'hui dans cette crise.
Et en même temps, je m'interrogeais pour savoir si on mettait, au fond, le Brésil dans la colonne des plus ou dans la colonne des moins, parce que, vous l'avez dit, il va y avoir des élections, là. Alors, on a un peu trop tendance à l'enterrer, Bolsonaro, on l'a enterré plusieurs fois en fait, et puis il a réussi à renaître de ses cendres. On est quand même visiblement dans un moment charnière qui peut faire basculer de colonne le Brésil cette année, à votre avis?
On pourrait inventer une colonne des plus en devenir.
Donc ça se complique,
le tableau se complique, mais le Brésil est certainement à mettre dans ce tableau, d'autant que il y a quand même eu un retournement de situation concernant le sort de Lula, l'ancien président, qui avait été accusé de corruption, qui a été blanchi des accusations portées contre lui. Le juge qui l'avait accablé est devenu ministre de la Justice de Bolsonaro. Bref, il est aujourd'hui libre. Il est vraisemblablement candidat à la prochaine présidentielle et il est en tête des sondages. Mmh. Donc on va avoir ce match qui n'a pas eu lieu la dernière fois entre un Bolsonaro qui a un bilan et un mauvais bilan et un Lula qui sent l'odeur de la revanche.
Et un Bolsonaro qui suit l'exemple de Trump puisqu'il dit déjà un an avant les élections si je perds c'est qu'il y aura fraude, ça il a de quoi tenir puisqu'il a un grand aîné qui a été Donald Trump. Pour l'instant la méthode est exactement la même.
Il est le Trump tropical et il suit ses traces. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut mettre la défaite de Trump dans la colonne des plus pour le bien de la planète, à tout point de vue. Ça a été compliqué. On a vu ce qui s'est passé le 6 janvier avec l'invasion du Capitole. L'Amérique reste énormément divisée, polarisée. Trump continue à avoir le parti républicain en grande partie à sa botte. Il laisse entendre qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle. Et on a l'année prochaine les midterms, donc la possibilité qu'ont les républicains de paralyser la présidence de Biden.
Pour rester dans la colonne des plus, on ne va pas y rester longtemps. J'ai posé la question autour de moi et Jean Marfour, qui est là tous les soirs, lui m'a cité ce petit confetti qu'est la Moldavie. En disant, c'est une femme d'abord qui a gagné les élections récemment, très nouvellement élue, qui veut sortir son pays de la corruption, c'est le pays le plus pauvre d'Europe, l'un des pays en tout cas les plus pauvres du vieux continent. Et on se dit au fond, il n'a pas forcément tort Jean-Marc, on se dit au fond voilà un pays qui pouvait tomber dans les bras du populisme, qui pouvait tomber dans les bras de Moscou et qui décide de regarder de l'autre côté. Qu'est-ce que ça nous dit Saint-Pierre?
Ça nous dit que le pouvoir d'attraction de l'Europe reste fort. Et contrairement à ce qu'on peut croire nous qui sommes dans cette Europe, à y voir tous les problèmes, toutes les contradictions, toutes les failles et les faiblesses de cette Europe. On l'a vu une nouvelle fois au début de la campagne de vaccination, on le voit sur les frontières, sur plein de sujets. Mais quand on est à la bordure de l'Europe et qu'on a le choix entre l'autoritarisme de Poutine d'un côté et cette Europe-là qui reste malgré tout un espace ouvert et prospère et qui vient de montrer d'ailleurs avec son plan vert dont vous allez parler.
Je cherchais le mot tout à l'heure, ouais.
Voilà, qui peut être encore un exemple sur des sujets qui sont fondamentaux.
Et peut-être un moteur même.
Au niveau d'un pays comme la Moldavie qui est tiraillé entre ces deux mondes, qui a subi une hémorragie parce que énormément de Moldaves sont partis, sont allés notamment en Pologne, qui leur donne la possibilité de venir travailler. C'est vrai que ce pouvoir d'attraction-là, il est fort. Cette présidente, elle a non seulement gagné la présidence, mais elle vient de gagner aussi les législatives. Donc elle a les mains libres pour un programme qui est résolument tourné vers l'Europe.
Voilà, un pays qu'on aimerait suivre avec beaucoup de plaisir. Où est-ce qu'on met l'Afrique du Sud? Je vous pose la question parce qu'à la fois, le chaos est total dans ce pays qui, en même temps, est capable d'enfermer l'ancien président Zuma, donc aussi de regarder en face tous ces gens qui se sont dit les héritiers de Mandela et qui ont mis l'Afrique du Sud où elle en est. Est-ce qu'on peut essayer de la caler dans la colonne du milieu ou pas?
Alors c'est difficile de la caler dans la colonne du milieu. Il y avait un signe d'espoir lorsque la justice a condamné Jacob Zuma, parce que beaucoup de Sud-Africains commençaient à douter de la capacité de leurs institutions à résister aux pressions politiques, à ce rouleau compresseur de cette poussée populiste qu'a incarné Jacob Zuma. Il a été mis en prison, il dort en prison en ce moment, Jacob Zuma, ce qui est quand même un maître à l'actif de cette démocratie. Jacob Zuma est un homme qui a fait énormément de mal à ce pays, qui a mis en place un système de corruption sur une échelle qu'on a rarement connue. Et après, il y a eu ces événements depuis une semaine, ces émeutes qui ont fait 72 morts. Ramaphosa a sorti l'armée pour rétablir l'ordre dans les deux provinces concernées. Donc on est dans un pays qui est aujourd'hui très abattu. J'ai parlé à des amis en Afrique du Sud qui avaient envie de pleurer sur l'état de leur pays. Donc ce pays a une capacité de rebond, a encore du ressort et beaucoup d'énergie dans sa société civile en particulier. Il est aujourd'hui prisonnier de cet héritage raté de Mandela qu'ont incarné ses deux successeurs qui, pour des raisons diverses, aussi bien Mbeki que Zuma, ont fait qu'il y a eu deux décennies ratées dans ce pays.
J'ai mis l'Afghanistan dans la colonne des moins.
C'est clair.
Alors voilà, avec cette question, est-ce que c'était 20 ans pour rien, selon vous, Pierre? 20 ans de guerre pour rien? Est-ce qu'on revient directement à la case départ, là, maintenant?
Je le crains parce qu'on est dans un piège absolu. Tout le monde a envie que cette guerre s'arrête. Je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'une guerre s'arrête, surtout après 20 ans, la plus longue guerre et la plus coûteuse qu'aient jamais menée les États-Unis. Et en même temps, si c'est pour que l'Afghanistan régresse complètement, et c'est ce qui va se passer, parce que ne nous faisons pas d'illusions, tout le monde le sait, les services américains le disent officieusement, les talibans vont reprendre le contrôle de ce pays, et ils n'ont pas changé d'avis sur le sort des femmes, sur l'éducation des filles.
Ça veut dire qu'on tire un trait, parce qu'il s'est quand même passé quelques petites choses dans ces 20 ans-là, en termes d'éducation,
et bien sûr.
Il s'est passé des choses pour les femmes, dont certaines d'ailleurs ont des postes à responsabilité, etc. Est-ce que ça veut dire qu'on va tirer un trait, selon vous, sur tout ça, revenir à ces images? On a tous vécu ça, les femmes en burqa, l'interdiction d'enseigner, de travailler, etc.
Ils seront peut-être plus intelligents et plus subtils, mais je pense que leur philosophie reste essentiellement conservatrice, ultra-conservatrice, surtout sur le sort des femmes. Et on a vu d'ailleurs ces dernières semaines, il y a eu des assassinats ciblés de jeunes femmes, journalistes par exemple. Et on voit qu'il y a en Afghanistan une nouvelle génération, en gros, des jeunes femmes de 30 ans qui ont grandi dans cette période de 20 ans sous la protection des troupes occidentales et qui aujourd'hui voit ce monde et toute cette promesse d'une autre vie qui va s'écrouler. C'est vraiment une catastrophe.
On fait du ping-pong d'un pays à l'autre. Je voudrais savoir dans quelle colonne on met Israël, Pierre Aski, qui à la fois a coupé le cordon avec Benjamin Netanyahou, mais enfin qui n'est pas moins à droite, qui a changé de génération de dirigeants quand même, donc on peut imaginer qu'il va se passer autre chose. On le met dans quelle colonne?
Je pense que on va le mettre dans la colonne incertaine, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans cette région, que ce soit d'ailleurs du côté palestinien, et on voit l'émergence d'une nouvelle génération qui en a marre du Fatah comme du Hamas, qui aujourd'hui est en train de contester Mahmoud Abbas, le président palestinien. Et puis du côté israélien, la page Netanyahou, en tout cas, il y a une chance qu'elle se tourne. Cette coalition complètement farfelue, il faut bien le dire, qui va des colons aux islamistes palestiniens, en passant par la gauche laïque, elle est rocambolesque, mais elle va permettre de tourner la page Netanyahou et de recommencer une vie politique plus normale.
Le point commun entre Israéliens et Palestiniens, on a l'impression que chacun d'eux a voulu changer de génération, c'est-à-dire qu'on n'a plus au pouvoir ou on aimerait ne plus avoir, pour ce qui est des Palestiniens, puisque pour l'instant Mahmoud Abbas est encore là, mais avoir des gens qui ont connu non seulement les guerres israélo-palestiniennes parfois, mais aussi la première intifada. On a l'impression que tout le monde, côté israélien comme côté palestinien, veut laisser derrière cette génération-là.
Oui, tout à fait. Ce changement de génération est très net des deux côtés, mais on ne sait pas sur quoi il va déboucher. Parce que côté israélien aujourd'hui, il n'y a pas véritablement d'offres politiques susceptibles de changer la donne, en particulier sur la question palestinienne. On sort quand même, il faut bien le rappeler, d'une guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, qui a été terrible, à la fois par les roquettes qui ont été lancées sur Israël et par les représailles sur Gaza, qui va en subir, qui va en vivre avec les conséquences pendant longtemps.
Et on sort de fractures dans les villes arabes israéliennes, qui étaient pourtant jusque-là tranquilles et qui nous disent des choses, effectivement, peut-être sur ce qui va se passer derrière dans ce pays-là. Ping-pong, encore une fois, est-ce que Hong Kong est définitivement dans la colonne des moins? J'ai envie même de vous poser la question différemment, Pierre. Est-ce que c'est fini Hong Kong?
Je répondrai hélas oui, et je pense que On a aujourd'hui, avec cette rivalité sino-américaine qui s'est aggravée au cours de l'année écoulée, et le changement de président à Washington n'a pas changé le fond de cet affrontement. On a une Chine qui était en train de se durcir depuis des années. Xi Jinping a donné un tour de vis, a tué tout ce qu'il y avait de société civile et a mis au pas les contestations aux marges de l'empire, c'est-à-dire Hong Kong, Tibet et Xinjiang. Et aujourd'hui, on a une Chine qui est inflexible sur ces points-là. Et donc, et nous, le monde extérieur qui protestons parce qu'on a fermé un journal à Hong Kong ou parce qu'on emprisonne les dirigeants du mouvement démocratique comme Joshua Wong, nous n'avons strictement aucune prise sur cette Chine à laquelle nous voulons en même temps vendre des Airbus et des, et des foulards Hermès et dont on voudrait qu'elle respecte les droits de l'homme. C'est le résumé des contradictions du monde actuel et hélas, le résumé aussi d'un rapport de force qui a changé. Et c'est ça qui est vraiment le point de bascule de notre époque aujourd'hui. C'est ce rapport de force international qui a complètement changé.
Est-ce que, pour rester dans la région au sens large, la Birmanie est dans la colonne des plus ou des moins ? D'un côté, on a une junte qui a gagné cette guerre pour l'instant, cette opposition avec la rue. Et en même temps, la rue est toujours là. Et un pays qui se soulève, qui ne l'avait pas fait depuis bien longtemps, est-ce qu'on se dit qu'il y a quelque chose à aller chercher aussi ou
Moi, je crains de mettre la Birmanie dans la colonne des moins parce qu'elle est en train de s'enfoncer aussi dans une guerre civile. Beaucoup de jeunes ont quitté les villes, ont rejoint les armées ethniques qui existait depuis des décennies en Birmanie et ne croit plus aujourd'hui qu'en l'affrontement armé, car cette junte militaire ne fait que réprimer et n'ouvre aucune perspective de négociation possible. Donc le risque, certes, le mouvement de protestation civile continue, mais le risque, c'est que le pays s'enfonce dans une guerre civile. Et là, c'est parti pour très longtemps.
On va en parler dans un instant dans le reportage d'Un jour dans le monde, mais que pensez Pierre, et qu'est-ce que ça dit de la colonne de Cuba, de ce qui s'est passé dimanche dernier ?
Cuba a surpris tout le monde parce que on sait qu'il y a une dissidence, qu'il y a une opposition à l'intérieur de Cuba, mais là, tout d'un coup, on a vu dans une vingtaine de villes des milliers de manifestants sortir au cri de liberté. Et en particulier sur le Malecón, cette avenue de la Havane qui est emblématique. Et alors certes, le pouvoir crie à l'agitation américaine, met en cause le blocus, etc. Ça, c'est classique. Mais il s'est passé quelque chose. Il y a un ferment, là encore, générationnel sans doute. On a l'hymne de ce mouvement, c'est un air de rap qui circule depuis des semaines et qui visiblement incarne une nouvelle approche à la fois culturelle et politique.
Et pour terminer, on va parler d'un pays, Pierre, rapidement, qui a changé de colonne en une année, en fait, c'est l'Éthiopie, qu'en faisant exactement le même exercice l'année dernière, au même moment, on avait mis dans la colonne des plus et qu'on a basculé dans la colonne des moins.
Oui, on avait ce Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, qui vidait les prisons, qui promettait la démocratie et la prospérité, et qui tout d'un coup se lance, alors pour des raisons interne et de dynamique interne à cet empire, cet ancien empire qu'est l'Éthiopie, mais se lance dans cette guerre contre le Tigré, une guerre atroce, et qui en plus il a perdu. En faisant appel à des troupes érythréennes qui commettent visiblement des massacres qui sont recensés aujourd'hui par les Nations Unies. Bref, on a une situation assez catastrophique. Les organisations humanitaires font savoir qu'elles ne peuvent pas apporter de l'aide à la population du Tigré. Bref, l'Éthiopie a basculé, a changé de colonne.
Pierre Aski, merci beaucoup. On rejouera aux colonnes, on verra bien ce qui a bougé. Merci vraiment de vous être livré à ce petit exercice avec nous dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Et on va y revenir puisque la suite, c'est le bruit du monde et ça se passe à Cuba dont on parlait à l'instant. Cuba qui a senti le ras-le-bol monter, qui s'est retrouvé dans la rue et qui est revenu aujourd'hui à sa quiétude. C'est ce que nous racontera Domiti Piron, mais on garde les souvenirs de ce qui s'est passé dimanche dernier. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Maria Melchiordi.
On parlera de cette incroyable retrouvaille en Chine entre un père et son fils qui avait été enlevé il y a 24 ans. L'enfant avait à peine 2 ans et demi.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Angélique Bouin nous racontera le détail de cette taxe carbone aux frontières voulue par l'Union. Le monde d'après, c'est Christian Chesneau qui nous parlera des 5 ans du putsch raté en Turquie, mais qui a changé durablement la présidence Erdogan. À tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue avec une petite escale à Porto Alegre. Dom la Nena, Vejo Passar, c'est sur France Inter. 1, 2, 3,
4. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão. Quando você vem, vejo a lua e as estrelas, e vejo o sol também. Por mim passam tantas pessoas. Sem você não sou ninguém. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Meu amor não tem perfume. Artifício, não tem tempo nem estação. Preciso de você pra respirar. Preciso de você pra mergulhar. No fundo de você há de haver um lugar para mim, um lugar para nós dois. Vejo passar pela janela as estações de trem. Passo o inverno, passo o verão, mas você não vê.
Le bruit du monde, comme promis, est à Cuba, qui est donc sorti d'une sorte de tranquillité habituelle pour souffler un vent de révolte populaire dimanche de Santiago à La Havane. Un mouvement très éphémère, mais qui en dit long sur les conditions de vie dans le pays, qu'on a déjà beaucoup raconté ici. Une crise économique sans précédent, aggravée par les sanctions américaines et la crise du Covid. Depuis, les autorités ont calmé la rue, rendu les États-Unis responsables des maux de Cuba. Jusqu'à la prochaine fois, probablement. Le reste, c'est Domiti Piron qui raconte.
Téléphone en main et criant « Liberté », des milliers de Cubains et principalement des jeunes sont sortis dans les rues ce dimanche. Parmi les manifestants sur le front de mer de la Havane, ce jeune homme qui souhaite rester anonyme est très ému par la crainte et par cet événement inédit qu'il
vit. « Je ne suis pas là pour moi. Je suis sorti pour ma famille. J'ai une petite fille et je ne veux pas qu'elle ait à passer par tout ce qu'on subit aujourd'hui. Donc je suis dans la rue. Et il faut qu'on aille de l'avant maintenant. Et qu'on essaye d'obtenir le changement dont on a besoin. Tout le monde veut du changement. Et autant de gens qui veulent se battre pour une même idée ne peuvent pas avoir tort. »
Crise économique, pénurie, coupure de courant, gestion de la crise du coronavirus et manque de liberté, le trop-plein a débordé dimanche. La colère des Cubains a explosé.
Presque dans toutes les provinces et dans plusieurs villes, les gens sont sortis dans la rue parce qu'on en a marre de tous ces problèmes et de cette crise qu'on vit ici. Les Cubains n'en peuvent plus.
Les gens en ont marre et on veut juste protester de manière pacifique et manifester pour notre liberté. Mais la police frappe tous ceux qui osent protester.
Durant les manifestations à la télévision, le président cubain a appelé les révolutionnaires à reprendre les rues et des Cubains, amenés par camion au milieu des manifestations et protégés par la police, débarquent en chantant « La rue est à Fidel ». Ce soulèvement populaire a largement surpris le gouvernement. Le président Miguel Díaz-Canel a reconnu certaines nécessités tout en justifiant les difficultés économiques du pays par l'embargo imposé à Cuba depuis 60 ans par les États-Unis.
Ceux qui nous font subir le blocus, ceux qui sont à l'origine de la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui veulent que nous en soyons là, provoquent des troubles sociaux, génèrent des malentendus et provoquent de l'insatisfaction.
Main des manifestations, c'est le silence. Les rues de la Havane sont désormais occupées par les policiers et militaires et le blackout est presque total. Le réseau mobile est coupé. Dans un parc Wi-Fi, un jeune homme parvient tout de même à se connecter à travers un tunnel crypté.
Ne parle pas trop fort parce qu'il y a des gens de la sécurité de l'État. Ils sont partout. Ils sont positionnés dans les rues, à rien faire. Mais tu te rends compte de qui ils sont parce qu'ils sont en moto ou en voiture. Et ils sont plantés là sans rien faire. C'est déjà arrivé, mais ils sont vraiment partout.
Dans le parc central de la Havane, à deux pas du Capitole, dont le parvis était envahi de manifestants dimanche, ils sont effectivement des dizaines assis là à ne rien faire d'autre qu'observer avec suspicion et aucune discrétion les passants. Les autorités imposent désormais une présence dans la rue.
Attention à la population. Rappelez-vous que nous sommes en phase de transmission communautaire de la Covid-19. Cubains, ayez conscience du risque de cette cruelle pandémie. Vive Cuba! Vive la révolution cubaine! Vive Díaz-Canel! Vive Fidel et Raoul! Abat le blocus génocidaire!
Les velléités de manifester semblent avoir été éteintes rapidement par la présence policière dans les rues et la vie semble avoir repris son cours normal. Sauf qu'il est encore plus difficile qu'avant de faire parler les Cubains. Très gêné et le rire nerveux, Abel, un vendeur de fleurs dans le quartier populaire de Centro Havana, a un avis très mitigé sur les événements.
Ça a surgi spontanément et maintenant c'est passé. C'était un jour, c'est tout. Et au final, qu'est-ce qui a changé? La vie est la même, non? C'est peut-être pire qu'avant d'ailleurs.
Sa femme travaille dans un salon de coiffure à deux pas. Elle a un avis plus tranché.
Je crois que ça n'a servi à rien. Parce que tout à l'heure, ils vont vendre du poulet et les gens vont retourner faire la queue. Parce que les Cubains, on est comme ça. On a toujours vendu nos valeurs pour pas grand-chose. Alors ils auraient mieux fait de rester à la maison. Même si je suis d'accord pour dire qu'il nous faut plus de liberté et que le gouvernement change. Le problème, c'est qu'ici, les gens se contentent de bien peu.
Hier, le réseau Internet a été rétabli. Le gouvernement continue de dénoncer l'embargo américain et focalise sa communication sur les violences de certaines manifestations et la manipulation de l'information, tout en appelant à l'unité des Cubains. La population semble ne plus vraiment écouter ces discours et dénonce sur les réseaux sociaux la répression et les violences policières qu'ont subies les manifestants. Parmi ceux qui osent encore s'exprimer, comme Luis, certains pensent que Cuba est à un tournant. En tout cas, quelque chose a changé ce 11 juillet.
Moi, je vois une lumière. Je vois venir un changement dans mon pays. Je ne sens plus la même peur qu'avant. Et je n'ai plus peur de m'exprimer. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau que j'expérimente là, maintenant. Et je trouve ça sain. La peur ne me paralyse plus. Et aujourd'hui, j'ai moins peur de ceux qui pourraient me réprimer que de ne rien faire et d'être paralysé.
Domiti Piron pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup Domiti, à très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars et c'est Mariam El Kurdi. Et vous nous emmenez d'abord dans le centre de l'Italie, Mariam, dans une exploitation de pastèques.
Oui, dans les vastes champs verts, les ouvriers ramassent des pastèques. Nous sommes dans la région d'Agropontino, beaucoup d'entreprises maraîchères. Parmi les ouvriers agricoles, de nombreux Indiens. Mais ils seraient entre 25 000 et 30 000 à vivre dans cette région sous la coupe de caporali, des intermédiaires sans scrupules qui recrutent de la main-d'œuvre servile pour le compte de propriétaires. Des ouvriers surexploités sont parvenus à dénoncer leurs conditions de travail proches de l'esclavage. Parmi eux, Balbir Singh, 49 ans. Je travaillais 12-13 heures par jour, y compris le dimanche, sans vacances, sans repos, même à Noël, raconte-t-il. Et le propriétaire de la ferme me payait 100-150 euros par mois, dit-il.
Con feste, con Natale. Lui a me paga un mese 100 euros, ultima 150 euros.
calvaire vécu pendant 6 ans. Il vivait dans une caravane sans eau chaude, sans électricité, ses papiers confisqués. Il peut parler sans risque maintenant car il a pu quitter la ferme. Suite à un appel au secours via WhatsApp et Facebook à un militant indien des droits humains il y a 4 ans, la police est alors alertée et mène une enquête. Son ancien employeur est aujourd'hui jugé pour exploitation. D'autres enquêtes suivent. L'une d'elles vient de révéler une consommation à grande échelle de drogue chez ses ouvriers agricoles indiens. Des opiacés pour qu'ils travaillent plus longtemps, malgré la fatigue et les douleurs. Un médecin de la station balnéaire de Sabodia vient d'être arrêté.
Direction maintenant la Chine et cette incroyable histoire donc de retrouvailles entre un père et son fils enlevé il y a plus de 20 ans.
Oui, le père s'appelle Guo Gangtang et son fils a 2 ans et demi lorsqu'il est kidnappé devant la maison familiale alors qu'il est en train de jouer. C'était il y a 24 ans, précisément dans l'est du pays. Les parents sont évidemment désemparés. Le père sillonne la Chine entière à moto pour tenter de retrouver son enfant. Son histoire a même inspiré un film. Le drame Lost and Love, réalisé par Peng Sanyuan, sorti en 2015 avec l'acteur vedette hongkongais Andy Lau, qui incarne le père. Et dans cet extrait, il montre une photo de son jeune fils à des passants ou des automobilistes. L'un d'eux lui répond « Mais ça fait 15 ans maintenant, ne sois pas en colère ». Tu ne le retrouveras jamais. Baisser les bras, hors de question pour Guo Gangtang. Et l'histoire prouve aujourd'hui qu'il a eu raison. Grâce à un test ADN, la police lui a annoncé qu'un enseignant de 26 ans, habitant dans la province du Henan, dans le centre du pays cette fois, était bien son fils, disparu il y a 24 ans. Les retrouvailles ont été organisées il y a quelques jours. La télévision publique chinoise a montré ces images émouvantes d'une mère en sanglots et d'un père heureux de pouvoir étreindre son fils. Des images qui ont ému évidemment les Chinois et qui ont permis de relancer le sujet des enlèvements d'enfants en Chine. C'est un vrai fléau dans le pays. Le ministère de la Sécurité publique a révélé que l'enfant avait été vendu à une famille après son enlèvement. Les trafics d'enfants se sont multipliés dans le pays dans les années 80, 90, 2000 en raison de la politique de l'enfant unique mise en œuvre. Entre 1975 et 2015, depuis le lancement en 2016 d'une base de données ADN dédiée, la police a aidé plus de 2600 personnes kidnappées à retrouver leurs parents biologiques.
On termine avec un peu de rêve, enfin si on veut d'ailleurs, hein, aux Émirats Arabes Unis.
Oui Fabienne, je sais que vous aimez la piscine.
Certes oui.
Fabienne, à l'approche des vacances d'été, je vous emmène donc dans la plus grande piscine du monde. Enfin précisément... la piscine de plongée la plus profonde du monde, elle est à Dubaï. Le record vient d'être confirmé par l'Académie Guinness des records. Le site s'appelle Deep Dive Dubaï. Description avec son directeur Jarod Jablonski. Deep Dive Dubaï est vraiment le centre le plus unique au monde. Ce n'est pas seulement une piscine de 60 mètres de profondeur, soit 15 mètres de plus que toute autre piscine et 2 fois plus grande que les autres dans le monde, explique-t-il. Ce n'est pas vraiment l'aspect le plus intéressant. C'est le thème de la ville engloutie, ce qui est fascinant pour les plongeurs en apnée et les plongeurs sous-marins qui viennent l'explorer, explique-t-il. 60 mètres de profondeur, un volume d'eau équivalent à 6 piscines olympiques. Dans cette cité perdue reconstituée, on découvre une végétation abondante, des objets de la vie quotidienne. D'autres peut-être plus inattendus, comme un baby-foot par exemple, une table pour jouer aux échecs. Avec cette piscine XXL, l'Émirat du Golfe espère, vous l'avez compris, attirer de nouveau les touristes en pleine pandémie. Le prix est également XXL, hein, Fabienne. Une plongée sous-marine d'une heure coûte entre 115 et 345 euros.
Oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher dans la piscine du 20e arrondissement chez moi, mais c'est beaucoup moins profond maintenant. Allez, Maria, merci beaucoup. À très bientôt. Je vous laisse partir avec un petit morceau de Sharon Jones, Better Things, sur France Inter. Sharon Jones, Better Things sur France Inter. Allez, direction Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Bouin, on s'arrête avec vous ce soir dans le détail sur l'une des mesures du Big Bang climatique annoncée hier par la Commission européenne. Bonsoir Angélique, c'est la création d'une sorte de taxe carbone aux frontières de l'Union européenne.
Oui, bonsoir Fabienne. C'est une mesure qui est réclamée par certains pays, dont la France, depuis plus de 10 ans, sans que l'on passe à l'acte, de peur notamment de se fâcher avec nos partenaires économiques. Mais l'Europe, qui se veut le fer de lance mondial de la lutte contre le réchauffement climatique, franchit donc le pas. Et c'est une première mondiale, se félicite la Commission. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, à partir de 2026, un fabricant chinois d'acier ou un producteur russe d'engrais dont les usines ne respectent pas nos standards européens en termes de pollution devra passer en quelque sorte au tiroir caisse pour pouvoir nous vendre ses produits. Il devra s'acquitter de droits à polluer sur le principe de ce qui est déjà imposé à certains industriels à l'intérieur de l'Union européenne avec notre marché carbone. À ce stade, comme en Europe, seuls certains secteurs seraient concernés, très polluants, la production d'acier, d'aluminium, de ciment, des engrais et d'électricité.
Alors l'objectif, on le comprend, c'est d'éviter la concurrence déloyale, mais aussi les délocalisations d'usines européennes.
Oui, car l'Europe est sur les rails de la décarbonisation. L'objectif que se sont fixés les 27, c'est d'être climatiquement neutre en 2050, et ça va arriver vite. La pression sur les industriels européens va s'alourdir encore et encore pour qu'ils transforment leurs usines et baissent drastiquement leurs émissions. La tentation de se délocaliser sera donc moins forte si vous leur fixez les mêmes contraintes ailleurs, en dehors de l'Union. Et puis, c'est là que ça se corse, et bien comme il n'y aura plus de problème de concurrence déloyale, donc tout cela dans les années 2026 et après, eh bien, les droits à polluer gratuits qu'on distribue actuellement dans les secteurs très concurrentiels n'auront plus de raison d'être. Le projet de la Commission, c'est de les supprimer à partir de cette date très progressivement, mais cela fait grincer déjà bien des dents. Là aussi, cela a néanmoins un seul but. Plus de droits gratuits à polluer, c'est une pression de plus pour verdir les procédés de production. C'est un cercle vertueux sur lequel on mise ici totalement à Bruxelles.
Alors Angélique, si la Commission a retenu ce système du marché carbone plutôt qu'une taxe, c'est pour plusieurs raisons.
Oui, d'abord parce qu'il a fait ses preuves avec ce marché carbone qui existe à l'intérieur de l'Union. On a baissé en 16 ans de près de 43% les émissions dans le secteur de la production électrique et des industries à forte intensité énergétique. Ensuite, parce que l'on ne pouvait pas, par exemple, imposer un simple droit de douane aux importateurs. C'est incompatible avec les règles de l'OMC. Ce système-là est compatible, martèle la Commission, mais cela sera sans aucun doute un sujet de polémique. Avant même l'annonce d'hier, plusieurs partenaires, Inde, Chine, Russie, estimaient que cela peut entraver le libre-échange. D'autres pays tiers, en revanche, sont plutôt favorables, ceux qui ont des normes de production proches des nôtres, ou bien déjà un marché carbone chez eux, comme la Nouvelle-Zélande. Et puis ailleurs, dans des pays pas concernés, on va tout de même observer ça avec beaucoup d'attention, parce que d'autres secteurs pourraient un jour être impactés, comme la chimie ou la pâte à papier.
Ça va rapporter de l'argent, Angélique, ces droits à polluer imposés à d'autres, et à la fin d'ailleurs des droits gratuits. Et ça servira à quoi ?
Alors aujourd'hui, l'argent récolté va dans la poche des États membres. La plupart la réaffectent à des projets verts, mais pas tous. L'idée qui avait été mise sur la table l'an dernier, quand les 27 ont décidé du grand emprunt commun pour financer leur plan de relance post-Covid, c'était de le rembourser avec de nouvelles ressources propres, dont ce marché carbone faisait partie. Mais depuis, on sent bien que ce n'est pas si clair. Où ira l'argent ? Combien cela représente ? Les estimations sont assez floues. Ça tourne autour de 10 milliards d'euros par an. La Commission, en tout cas, veut le récupérer dans son budget. Un diplomate résume bien la situation. Cela fera sans aucun doute l'objet de discussions pas faciles.
Le sens de la litote des diplomates et des fonctionnaires européens. Angélique Bouin depuis Bruxelles, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Christian Chesneau ce soir. Bonsoir Christian.
Bonsoir Fabienne.
Christian, il y a tout juste 5 ans, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, des militaires tentaient de prendre le pouvoir en Turquie. Le coup d'État se déroule en direct sur les écrans de télévision. Au final, c'est un fiasco, mais ce putsch manqué va transformer le pouvoir du président Erdogan et continue d'ailleurs de peser sur la vie politique en Turquie.
Oui, Fabienne, c'est un drôle de putsch qui surprend la population. Vous savez, d'habitude en Turquie, les coups d'État se passent au petit matin. C'est presque une tradition. Cette fois-ci, les mutins sont passés à l'action dans la soirée. Ils se sont déployés sur les ponts du Bosphore, à Istanbul, ont investi les studios d'une télévision, et puis surtout, ils ont bombardé le palais présidentiel à Ankara, ainsi que le Parlement. Le président Erdogan est alors en villégiature à Marmaris, informé des événements. Il intervient sur CNN Turc depuis son téléphone portable. Il appelle ses partisans à descendre dans les rues pour s'opposer aux militaires factieux. Et c'est ce qui se passe. On a encore en mémoire ces images de ces soldats sur leurs blindés, encerclés par la foule sur les ponts du Bosphore, qui sont ensuite arrêtés par des civils. Très vite, le putsch est un échec. On s'est interrogé d'ailleurs à l'époque sur le sérieux des auteurs de ce coup d'État qui semble improvisé, mais qui aura quand même fait 290 morts et près de 1500 blessés parmi les civils.
Alors, 5 ans après, est-ce qu'on sait ça? Qui est derrière ce putsch?
En fait, il s'agit de quelques officiers kémalistes, mais surtout des hommes qui appartiennent au réseau de Fethullah Gulen, un leader islamiste en dissidence avec le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, le mouvement guléniste. Vous savez, c'est un mouvement religieux conservateur qui a aidé le président turc dans sa conquête du pouvoir avant que ce dernier ne l'élimine parce qu'il devenait trop influent. Les gulenistes sont notamment très présents dans l'éducation, l'université, l'administration ou encore l'armée.
Alors Christian, première conséquence de ce putsch manqué, ce sont des purges massives.
Bien évidemment, des centaines de généraux, des hauts gradés sont interpellés, arrêtés, soupçonnés d'avoir trempé dans le complot. Mais surtout, on assiste à une épuration sur une échelle presque industrielle, une chasse aux sorcières nationales dans tous les secteurs de la société, dans la police, la justice, la presse, l'université, jusque dans les rangs des responsables kurdes qui n'ont rien à voir avec le putsch. Plus de 140 000 personnes seront limogées. En fait, Erdogan profite des événements pour régler ses comptes avec tous ses adversaires et renforcer son pouvoir présidentiel. Il dira d'ailleurs juste après l'échec du coup d'État qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu. Et il fera voter dans la foulée une réforme constitutionnelle actant le passage d'un régime parlementaire à un régime présidentiel.
Et de là aussi naît une incompréhension entre le président Erdogan et les Occidentaux. Et cette incompréhension, elle perdure aujourd'hui.
Oui, d'abord avec les Européens qui semblent tergiverser et qui tardent à le soutenir. Pour Erdogan, il y a une forme de duplicité des Européens qui prônent la démocratie dans leur discours, mais qui, selon lui, n'ont pas immédiatement condamné ce coup porté à un régime démocratique. L'attitude des Américains est encore plus critiquée parce que la bête noire du président turc, Fethullah Gulen, accusé donc d'être le cerveau du putsch, réside toujours aux États-Unis. Et là encore, Erdogan dénonce l'hypocrisie des Américains. Et il n'est pas loin de voir la main de la CIA derrière les événements de la nuit du 15 au 16 juillet 2016. À partir de là, l'incompréhension entre le président turc et les Occidentaux va aller crescendo. Le seul qui échappe à la colère d'Erdogan, c'est le russe, Vladimir Poutine. Il est le premier à réagir et à apporter son soutien au président turc dont le pouvoir est menacé. Erdogan saura d'ailleurs s'en souvenir quand il faudra se partager avec Moscou les zones d'influence en Syrie ou en Libye. Donc au final, ce putsch reste un marqueur pour le président turc qui depuis n'a de cesse que de renforcer son pouvoir. D'ailleurs, la machine répressive continue de tourner à plein régime en Turquie, comme si la vengeance d'Erdogan n'était toujours pas assouvie.
Christian Chesneau et Le Monde d'après. Merci beaucoup Christian. On reste ensemble dans un instant. C'est le journal d'Hélène Roussel et puis le téléphone sonne. Merci de passer cette soirée avec nous. Ne changez rien, tout de suite.